13 Passions, une émission de Roger Bouichou, présentée par Denis Arcas et Roger Bouichou, sur Radio Marseillaise 101.3.
Eh oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je donne tout de suite la parole à nos animateurs pendant que j'appelle notre invité. Bonjour messieurs.
Oui, bonjour Denis, bonjour Nicole, bonjour nos auditeurs et auditrices. Un grand invité aujourd'hui à la personne de M. Lacoste, le président de la Fédération française de rugby à 13. Alors, pour l'interviewer, Roger Bouichou et ensuite Denis Arcas. Alors, avons-nous notre invité en ligne, Nicole?
Pas encore. Non,
d'abord, c'est moi qui suis en ligne, Roger. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, j'ai dit bonjour tout à l'heure.
Oui, mais est-ce que tu m'entends?
Oui, ah, je t'entends comme si tu étais presque sous mes genoux, mais tu n'es pas sous mes genoux encore.
Non, merci, non, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicole et bonjour Roger. Allez, ça fait un grand plaisir de vous recevoir après ce grand week-end, avant ce grand week-end très vite sur Radio Marseillaise.
Voilà. Notre invité est arrivé.
Voilà, bon, ben Roger, je te repasse la parole.
Je te remercie, gentiment, Denis. Président, bonsoir.
Bonsoir, mes amis, bonsoir les auditeurs, bonsoir à tous les trésistes qui nous écoutent.
Bonsoir, voilà, je président. Je sais qu'ils sont nombreux lorsque M. Lacoste est à l'antenne. Bon, on fait sauter les compteurs à Radio Marseillaise. Alors, président, on va vous interroger sur la Coupe du Monde à venir, sur celle qui va être organisée par la France, et ensuite on parlera du championnat français avec ses problèmes, tout ce qui touche évidemment l'environnement. Alors président, nous allons aborder très prochainement la Coupe du Monde. Comment cela se prépare et dans quel état moral sont toutes ces équipes de 13 de France?
Ah, la préparation est un long chemin. Qui a démarré, comme vous le savez, l'année dernière et qui nous a imposé, à cause du report, because Covid, du report de la Coupe du Monde, de poursuivre notre préparation tant pour les fauteuils que pour les filles et ou les garçons. Alors comment ça se passe? Ben, vous savez, en fait, on n'a pas freiné le rythme et on a continué et on a décidé de continuer à multiplier les stages, les rencontres, en fonction des disponibilités, notamment chez les hommes qui sont toujours un petit peu plus compliqués. Mais, pardon. Mais effectivement, on a poursuivi notre rythme de stage intense, hein, puisque au total, sur 2 ans, on aura fait plus de 20 stages, hein, des équipes de France, que ce soit à Bordeaux, que ce soit au Krebs de Toulouse, ou ailleurs. Et il faut maintenir cette pression parce que pour nous, la Coupe du Monde en Angleterre, on a envie de bien la vivre et de l'assumer. Donc il a fallu mettre les bouchées doubles. Mais de ce côté-là, c'est vrai que les équipes travaillent bien. Côté ambiance, l'ambiance est bonne. Ils ont tous envie d'y aller et ils ont tous envie de batailler là-bas. Nos filles font... écrivent une histoire extra. Notre 13 fauteuil part en Angleterre prochainement pour faire encore un match contre les Anglais, 2 matchs d'ailleurs, et nos filles également, et puis nous, on aura notre match contre le Pays de Galles le 19 juin à Albi pour les hommes, avant de partir au mois d'octobre en Angleterre. Voilà.
D'accord. Alors, président, il y a certains qui disent, bon, il y a Clément Boyer qui s'en va jouer en Australie, Cham qui s'en va jouer en Australie. Est-ce que ces joueurs seront présents tout de même avec le 13 de France?
Ça, vous savez, j'ai toujours dit que je ne m'engagerai pas sur le terrain sportif. C'est du sujet de nos amis, les différents sélectionneurs qui décident de ça. Mais je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Et puis vous savez, certains disent dans votre question, heureusement qu'on n'écoute pas toujours les certains qui disent. J'essaye de vous faire des réponses courtes, hein, Roger, pas de soucis.
Oui, après, vous allez me dire que je parle trop. Vous m'avez surpris, d'ailleurs. Hein. vous m'avez surpris. Bon, alors, c'est sûr que bon, il y a une équipe quand même intéressante, c'est le 13 fauteuil, qui est champion du monde en titre. On aimerait bien remettre ça, quand même, de ce côté-là.
Alors, d'abord, je crois qu'il n'y a pas une équipe qui est intéressante. Je pense que les trois équipes sont intéressantes, pour des raisons différentes. D'abord parce que, effectivement, pardonnez-moi, je vais d'abord sur les filles. Les filles, on sait bien que c'est plus difficile. Le rugby à 13 féminin en France était démarré, était dans des balbutiements. Vous savez que j'en ai fait un point important parce qu'on a besoin de développer le sport féminin. Et notre sport est un sport qui peut effectivement devenir, qui est très féminin. Donc je regarde très près ce que font les filles. Et donc c'est aussi une équipe intéressante. Mais elles auront un moment qui va être difficile compte tenu de la poule. Pour les A, vous le savez, je crois aussi qu'ils sont en train de progresser. On est passé de la 8e place à la 7e place. Le test match qui aura lieu contre le Pays de Galles va aussi nous faire, pas progresser je pense en termes de ranking, mais en termes de points dans le ranking. Donc bon, tout ça est positif. Et vous savez que je leur ai demandé d'essayer de faire au minimum un quart de finale, ce qui serait, compte tenu de notre poule, une belle, qui resterait une très belle performance. Et effectivement, on a les fauteuils. Ah, le 13 fauteuils, c'est le 13 fauteuils. Je suis d'ailleurs très fier d'avoir réussi à faire revenir Robert Fassolette en qualité de manager et de directeur de l'équipe de France 13 fauteuils. Effectivement. L'objectif pour le 13 fauteuil, c'est d'aller chercher un nouveau titre. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai une immense confiance dans le staff et dans la qualité extraordinaire de ces joueurs qui pratiquent un sport et un 13 fauteuil remarqué et remarquable.
Bien.
Donc oui, on espère tous aller chercher un troisième titre. Et puis en 2025, peut-être un quatrième.
Ouais, pourquoi pas, bien sûr. Alors justement, vous m'étendez la pêche, je la saisis au vol. Où en sont les préparatifs de cette Coupe du Monde que beaucoup de personnes attendent en France en 2025?
Bien, écoutez, déjà, sur la Coupe du Monde 2025, ce qu'on peut déjà dire, c'est que effectivement, c'est bien normal que les gens l'attendent avec impatience, parce que, d'abord, ça a été un combat au mérite pour aller la chercher, mais mais c'est une chance extraordinaire pour notre sport, pour réussir à mettre un focus et un éclairage particulier sur le rugby à 13 français, et ce ne sera pas d'ailleurs que sur les terres 13-10, hein. Et donc on peut en être fier, il faut en être fier, et effectivement on a un peu plus de 3 ans pour la préparer. Alors, où en sommes-nous? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la fédération directement qui organise la Coupe du Monde 2025. C'est une association qui s'appelle France 2025, qui est indépendante de la fédération, même si à son conseil d'administration, bien évidemment, il y a des gens de la fédération. Indépendante pourquoi? Indépendante parce que l'IRL, l'International Rugby League, la Fédération Internationale, délègue à quelqu'un l'organisation de la fédération, et l'organisation de la Coupe du Monde. Et si elle devait la déléguer à une fédération, les autres pays diraient, non mais attendez, c'est juste pas normal, puisque c'est celui qui détient l'équipe de France qui organise. Est-ce que ça, tout ça va être impartial et autre? Donc c'est effectivement une association à côté qui organise. Cette association est parfaitement constituée, elle a même son siège Avenue de la Grande Armée, vous voyez, ça porte bien son nom, Avenue de la Grande Armée à Paris, et elle travaille. Où est-ce qu'on en est pour l'instant? On en est essentiellement, et le comité d'organisation travaille essentiellement sur l'identification et les négociations avec les collectivités locales qui seront villes hôtes, c'est-à-dire qui recevront des matchs, et les collectivités locales qui seront camps de base, c'est-à-dire là où s'installeront les équipes. Et il y aura quand même 64 équipes. puisque on avance également très bien sur ce côté-là. Donc au niveau des villes, le comité d'organisation a démarré. D'abord, nous avons eu plus de 112 candidatures de collectivités locales à travers tout le pays. Et quand je dis à travers tout le pays, ça va de Cherbourg, en passant par Besançon, en allant vers Amiens, en allant vers Le Havre, en allant en Bretagne, en redescendant, bien évidemment, tous les départements de l'Occitanie sont représentés, mais ça va en région PACA, ça remonte sur la Ligoura, il y a Paris, où nous étions et où le comité d'organisation était encore le 19 ou le 20 avril avec la métropole du Grand Paris et la ville de Paris pour voir ce qu'il était possible de faire. Et donc ça avance de ce côté-là très bien. Et les rendez-vous et le comité d'organisation est en rendez-vous un peu partout en ce moment. Aujourd'hui même, vendredi 6 mai, le comité d'organisation était à la mairie de Roanne et était également à la mairie de Montluçon. Hier, ils étaient à la région Rhône-Alpes. En début de semaine, ils étaient du côté de la Dordogne, à Périgueux, à Boulazac. Le jour avant, ils étaient à Colombes, du côté de Paris. On va mimer à Besançon, à Avignon, à Toulon, à Agen, à Bordeaux, à Bègle, à Biarritz, à Bayonne en juin, à Toulouse. Bref, ça n'arrête pas et ça va continuer jusqu'à environ fin juillet pour être en capacité de rencontrer les villes candidates, de poser clairement sur la table les conditions dans lesquelles le comité d'organisation et France 2025 souhaitent que puissent se dérouler les compétitions, pour avoir un choix possible de l'ensemble des collectivités qui seraient arrêtées à la fin de l'année. C'est l'objectif de notre roadmap, comme on dit, c'est l'objectif de notre du déroulé des opérations telles qu'elles se posent actuellement. Ça, c'est sur le côté purement organisation, choix des villes. Pourquoi, contrairement à nos amis et cousins du rugby à 15, nous avons choisi de décider d'avoir les villes candidates beaucoup plus tôt que au rugby à 15, c'est qu'en fait, nous avons fait le choix d'une décentralisation très forte de la Coupe du Monde. On veut une Coupe du Monde proche des territoires. Et pour ça, chaque territoire, chaque ville aura ce que l'on appelle un comité local d'organisation et qui sera là pour mettre en place des éléments du cahier des charges, mais aussi qui pourra se préparer sa propre Coupe du Monde. Je pense que la Coupe du Monde à Carcassonne sera pas tout à fait la même que la Coupe du Monde à Quimper. Je pense que la Coupe du Monde à Montauban ne sera pas tout à fait la même que Perpignan. Je pense que la Coupe du Monde à Nice, où nous étions le 28 avril dernier, ne sera pas tout à fait la même qu'à Toulouse, parce qu'il y aura des particularités de territoire. Et c'est ce qui représente notre rugby, contrairement à d'autres, et notre Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde de rugby à 13, mais c'est aussi une Coupe du Monde faite pour les territoires. Et le 13, c'est un sport de territoire. Et on a voulu l'affirmer comme tel. Donc, de ce côté-là, ça avance bien. Le deuxième point, et là je suis toujours un peu plus long, et vous me pardonnerez Roger, mais pour vos auditeurs, oui, c'est important de le comprendre. Vous savez, quand on a gagné l'organisation de la Coupe du Monde, certains m'ont dit, mais monsieur Lacoste, vous n'arriverez jamais à avoir 16 nations pour les hommes, 16 nations pour les filles, 16 nations pour les fauteuils, 16 nations pour les jeunes. Et, encore une fois, malheureusement, les gens, parfois un peu les trésistes, mais les gens sont souvent pessimistes et ont peur de l'avenir et de l'ambition. Cette ambition, je l'ai posée sur la table et aujourd'hui, nous avons, après un appel à candidature, 31 nations qui veulent venir à la Coupe du Monde filles. 24 nations prêtes à venir pour le 13 fauteuil. Il n'y en avait que 8, hein. 29 nations qui se sont déjà déclarées pour envoyer des jeunes U19 chez nous. Donc nous aurons bien nos 64 nations réparties sur l'ensemble du territoire. Ben, je crois que c'est des bons débuts et donc ça avance plutôt pas mal.
Alors, Président, Roger, oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai lu qu'au total, au niveau de l'International Rugby League, c'est plus de 80 nations qui se préparent, enfin, qui souhaiteraient participer à cette Coupe du Monde. Alors, évidemment, qui vont participer à des phases éliminatoires. Donc, c'est un record, a priori. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que le rugby à 13 mondial ou est-ce que, est en train de prendre son envol, vraiment? Ou est-ce que le fait que ce soit la France, que ça change un peu des pays anglo-saxons, est-ce que ça représente, d'après vous, aussi un appel d'air frais pour des nations qui débutent?
C'est indéniablement un peu des deux. C'est certainement parce que la France. J'ai été assez impressionné de voir lorsque j'ai lancé la candidature de la France pour recevoir cette Coupe du Monde, j'ai été sensible et mais étonné de voir la quantité de messages venant de l'ensemble de la planète rugby à 13, mais pas que rugby à 13 d'ailleurs, appelant et soutenant à fond les ballons notre candidature. Et c'est vrai que de voir la Coupe du Monde inventée par un Français revenir sur nos terres est un appel d'air extraordinaire pour l'IRL, premièrement. Deuxièmement, j'ai découvert à l'international et découvert parfois dans d'autres sports à quel point le monde du 13, les 13istes, nous les 13istes, on a une capacité extraordinaire à se tirer une balle dans le pied, à dire qu'on n'est pas bon, à se flageller. Et à côté de ça, les gens qui disent, mais vous avez un sport magnifique, ça va être super, etc., etc. Même le rugby à 15 m'a soutenu à fond les ballons pour cette Coupe du Monde. Donc à l'arrivée des courses, on a une capacité à se flageller, nous, à 13, alors que partout ailleurs, on nous regarde avec des yeux d'envie. Donc oui, je pense que la France a indéniablement fait un appel d'air. Au demeurant, l'IRL fait un travail assez remarquable pour réussir à développer le rugby à 13 un peu partout. Alors, moi, depuis que je suis rentré à l'IRL, j'ai demandé quand même certaines choses qui ont été intégrées dans le plan stratégique de l'IRL, notamment la nécessité de développer notre sport sur des territoires, notamment aux Amériques, également sur l'Afrique et le Moyen-Orient, où effectivement on a actuellement des choses qui sont en train de se passer. Tout comme j'ai fait inscrire au plan stratégique de l'IRL la volonté que l'IRL développe très fortement le rugby à 13 féminin, ainsi que d'ailleurs le rugby à 13 fauteuil. Et tout ça est dans le plan stratégique nouveau de l'IRL. Donc l'IRL fait un travail remarquable. Mais je crois quand même que la France, oui. Et puis nos amis ont surtout envie de venir dans le sud de la France. Et qui sait, à Carcassonne sûrement.
Oui, Roger, encore une question.
Oui, vas-y.
La parole. Oui, j'ai lu, pour poursuivre dans cet aspect, j'ai vu que Troy Grant, président de l'IRL, disait que la promesse que France 2025 avait fait justement de dire que cette Coupe du Monde serait le sport pour tous, a donné un véritable élan et qu'il disait que justement, actuellement, justement, compte tenu des demandes qui sont faites, en effet, ça se situe vraiment dans cette promesse que France 2025 a fait.
Exactement, vous avez raison. En fait, France 2025 a un pilier, enfin deux piliers majeurs. C'est un concept que dès le premier jour nous avons mis dans notre candidature, qui est le rugby à 13, c'est un sport pour tous, accessible à tous. Et donc nous avons décliné tout au long de notre plan plan de candidature et maintenant notre plan d'organisation, ce concept-là, sport pour tous, accessible à tous. Et sport pour tous, on l'a décliné autour de hommes, femmes, fauteuils, jeunes, même nombre d'équipes, même façon. En Angleterre, vous savez, c'est 16-8-8, hein, donc là, on a poussé le raisonnement jusqu'au bout. J'ai moi-même demandé, lorsque nous faisions les conseils d'administration au conseil d'administration de l'IRL, où la France est désormais représentée, j'ai demandé à ce qu'effectivement on puisse trouver un système de qualification permettant, bien évidemment, de respecter des règles sportives, mais de faire en sorte que le maximum de nations puissent être représentées. Et donc, de ne pas se limiter uniquement aux territoires habituels, avec toujours les choses qui ronronnent. Et au contraire, j'ai plutôt poussé pour qu'il y ait plus d'équipes aussi qui viennent des Amériques. Alors, pour deux raisons. Hein. Premièrement, parce que c'est important d'avoir plus de nations représentées. C'est aussi important, je ne vais pas vous le cacher, d'un point de vue purement économique, hein, parce que les droits ainsi se répartissent, droit marketing ou droit télé, se répartissent sur plus de pays, ce qui est important pour les finances de France 2025. Donc ça, c'est sport pour tous. Et puis derrière, on a décidé de prendre une voie visant à dire que le billet moyen tout au long de la compétition ne dépasserait pas 30 euros. Donc un billet très largement inférieur à ce qui se passe généralement dans ce type de compétition. Et nous aurons un billet qui ne sera pas supérieur à 30 euros sur la durée de la compétition. C'était donc important d'avoir un maximum de nations, un maximum de matchs, puisqu'il y aura 128 matchs, puisque nous aurons un petit prix. Et puis enfin, sport pour tous, accessible à tous, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi un modèle visant à se répartir sur un nombre conséquent de villes, pour que tous les Français, ceux qui sont de villes moyennes, qui n'ont généralement pas l'occasion de recevoir des compétitions mondiales, puissent enfin avoir le droit à de belles fêtes et de bons moments d'un sport extraordinaire et de qualité dans leur ville, alors que généralement, une Coupe du Monde, ça n'atterrit pas dans une ville comme ça. Nous, on a voulu, effectivement, sport pour tous, accessible à tous. 80% des matchs auront lieu, voire plus, hein, auront lieu dans des villes de taille moyenne. Les phases finales seront dans des villes vraisemblablement plus importantes. Mais on a vraiment voulu que notre concept de base, et on s'y tient, et le comité d'organisation s'y tient, soit le plus large possible.
Alors, Président.
Yes, sir.
C'est vrai que cette Coupe du Monde était prometteuse, mais faudra-t-il qu'elle soit diffusée sur les médias? Où en est l'approche avec les médias?
Alors, sur les médias, d'abord, un grand événement sportif comme ça, c'est toujours retransmis. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Enfin, il faut se prendre la tête avec ça, bien évidemment. Mais bien évidemment que la Coupe du Monde sera retransmise sur les médias. Elle sera retransmise sur les médias, sur les télés françaises. Elle sera retransmise sur en Angleterre, aux États-Unis, en Australie. On a même, en fonction de quel pays d'Afrique sera représenté, on sait d'ores et déjà que les droits seront cédés sur l'Afrique. Les États-Unis, qui est pour nous un marché conséquent, retransmettront également les images de France. Tout comme le Canada, sous réserve que ces équipes puissent se qualifier dans une des quatre compétitions, mais on peut raisonnablement le penser. En France, des discussions sont déjà entamées. Mais, vous savez, ça évolue tellement vite, et le marché des diffuseurs évolue tellement vite qu'il est parfois, il faut se presser de ne pas aller trop vite, hein, pour être certain de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et l'engouement par rapport à cette Coupe du Monde ne va monter en puissance qu'après la Coupe du Monde de nos cousins du 15. Donc, les négociations qui ont des approches, il y a déjà eu des approches, hein, mais les négociations vont véritablement démarrer à la fin de 2023. Alors au demeurant, on a déjà rencontré France Télé, on a déjà rencontré beaucoup de chaînes, mais vous savez, on est dans un régime de confidentialité. Mais ça avance, ça avance. Et de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, hein, parce que franchement, une compétition comme celle-là, elle sera représentée. Nous, ce qu'on a comme objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que quasiment tous les matchs puissent être retransmis. Alors, ils ne seront peut-être pas tous à la télé, il y aura vraisemblablement aussi toutes les plateformes qui se développent, qui vont de Twitch en passant par Twitter, en passant par Amazon, en passant par ci, qui sont des futurs diffuseurs très impactants. Hein. Donc, il faut regarder de près ce qui se passe. On est entouré d'agences de conseil qui sont en train de préparer les cahiers des charges. Mais pour l'instant, on n'a pas encore choisi le diffuseur, parce que c'est beaucoup trop tôt.
D'accord. Alors, une question importante. Qu'attendez-vous au niveau régulateur français comme résultat positif après la Coupe du Monde?
Vaste question, monseigneur. Vous savez, pour nous, hein, la Coupe du Monde 2025, c'est un événement, et cet événement, il va être livré, comme on dit. Il va démarrer et il va finir. Si c'est pour faire ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
C'est pour ça que
La Coupe du Monde 2025, pourquoi est-ce qu'on est allé la chercher? On est allé la chercher parce que, et je l'avais dit à l'époque, c'était à l'époque de la campagne, ça commence à dater, il y a un an et demi. J'avais dit, si on peut aller la chercher, on est allé la chercher. Pourquoi? Parce que moi, je cherche à transformer notre fédération, à transformer notre rugby à 13. Et donc, on a mis en place, comme vous le savez, un plan de transformation. Il va aller sur les 4 années de la mandature, mais peut-être qu'il y aura d'autres mandatures derrière qui prendront la relève. Et ce qu'il y a d'important, c'est que la Coupe du Monde, c'est un point de passage. Elle doit permettre d'accélérer notre plan de transformation. Donc oui, il doit se passer des choses avant la Coupe du Monde, et il devra se passer des choses après la Coupe du Monde. La Coupe du Monde nous ouvre des opportunités gigantesques. Le rugby à 13 va s'installer dans 40 villes hôtes, dont une partie d'entre elles n'ont pas de rugby à 13 aujourd'hui. Et ils vont s'implanter dans près de plus de 60, le chiffre n'est pas arrêté, tout ce qui est en train d'être fait est en cours, dans plus de 60 à 70 villes camps de base. Le rugby à 13 va donc être connu, reconnu, dans toutes ces villes. Et dans les cahiers des charges, nous demandons, sous une forme sans pouvoir l'obliger, mais nous demandons aux collectivités locales, et elles-mêmes, lorsqu'elles n'ont pas de club de rugby à 13, veulent être en capacité de créer un club de rugby à 13. Et donc, nous allons avoir, par l'aspiration de la Coupe du Monde 2025, un premier point qui sera l'augmentation du nombre de clubs sur l'ensemble du territoire. Et c'est important pour nous. Quand vous voyez que Nantes, la ville la plus proche pour jouer à Nantes, c'est Bègles. Vous ne croyez pas qu'il faut qu'on aille se débrouiller pour aider les clubs de Nantes et la région nantaise et tout autour de Nantes à créer des clubs? Je voulais aller ce week-end et malheureusement je n'ai pas pu puisque je serai aux demi-finales voir la finale de promotion 9 à Saint-Poix. Ça ne vous parle pas, Saint-Poix. Hein. C'est en Normandie, où nous avons 3 clubs qui se sont créés. Saint-Poix, on a Cherbourg, et puis on a un autre club qui s'est créé là-bas. Il faut les aider. Donc il faut les aider en essayant d'avoir des villes qui seront camp de base ou villes hautes, en 2025, parce qu'il y aura des clubs qui vont se créer. Et s'il y a des clubs qui se créent, bah naturellement, il y aura plus de licenciés, puisqu'il y aura des licenciés dans ces clubs. Et puis enfin, la Coupe du Monde, avant sa réalisation, mais bien évidemment après sa réalisation, si elle est réussie, fera également un appel d'air extraordinaire pour augmenter le nombre de licenciés dans nos clubs. Alors tout ça va nous demander énormément de travail, notamment à la fédération, parce que d'un côté, vous avez donc l'association France 2025 qui est là pour livrer l'événement dans ses conditions sportives, dans ses conditions administratives et dans ses conditions financières. France 2025 s'arrêtera après la Coupe du Monde 2025. La fédération, elle poursuivra. Et donc, elle doit bénéficier de l'aspiration avant l'événement et de l'héritage après l'événement. On s'est donné comme objectif, après l'événement, d'avoir multiplié par quasiment 3 le nombre de nos licenciés, qui est tout ça est calibré. Je l'avais dit lors d'une assemblée générale, je crois, auprès de nos présidents et de nos clubs. Donc tout ça doit permettre une accélération très forte de notre sport. C'est pour ça qu'on le fait.
D'accord.
Président.
Alors, oui, Denis, vas-y.
Oui, président, oui. Je m'excuse, je vais faire un peu l'auto-flagelleur. Bon, j'ai pas trop l'habitude. J'aime pas trop ça, mais c'est d'habitude, faut pas le dire, c'est Roger, c'est Roger qui me flagelle.
Denis, vous allez m'agacer. Alors.
Et oui. Et vous êtes là pour ça. Tous ces clubs qui, je ne demande pas mieux de voir ça et j'espère le voir, tous ces clubs qui seront créés grâce à cette Coupe du Monde, et moi j'y crois, hein, c'est pas le problème, mais avec quoi on va les créer? Je précise ma question, avec quel dirigeant, quel bénévole, et puis surtout, quel joueur? Quand on regarde la situation du rugby à 13 en 2022, on se dit quels sont les joueurs, avec quels joueurs on peut avoir multiplié nos clubs par 3, sauf si
c'est non, vous attention, hein, c'est pas multiplier les clubs par 3, hein, c'est multiplier le nombre de licenciés. Pas le nombre de clubs. Hein. Alors attention, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est la vraie, et Denis, c'est la vraie bonne question. On peut rêver, on peut se dire si, on peut se dire pas. Premièrement, effectivement, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous nous sommes rapprochés actuellement et qui va nous accompagner, d'ailleurs, dans le cadre de France 2025, du président des ASPTT. Les ASPTT, vous en avez 240 à travers la France, et donc ils sont dans beaucoup des villes qui sont d'ailleurs candidates. Et nous sommes en train de travailler actuellement avec les ASPTT pour réussir, les ASPTT, hein, ce sont des clubs omnisports, hein, pour créer des sections 13. Et donc, les ASPTT bénéficient déjà d'un certain nombre de dirigeants, il faudra en trouver d'autres, hein. Ah ben ça c'est clair qu'il faudra en trouver d'autres. Mais déjà, des structures existent. Et on peut tout à fait envisager, comme on est déjà en train d'y travailler, avec la SPTT, la possibilité de créer au sein des ASPTT des sections de 13 afin de permettre le déploiement finalement du rugby à 13 sur le territoire. Donc oui, vous avez raison, effectivement, il y a une crise, mais c'est valable dans tous les sports, hein, il y a une crise énorme des bénévoles et des dirigeants. D'ailleurs, au niveau de la fédération actuellement, là où il y a la plus grosse baisse du nombre de licences, c'est les dirigeants et les bénévoles. On a à peu près retrouvé notre niveau de licence d'avant Covid, mais par contre, sur les dirigeants, c'est un peu plus difficile, puisque je crois qu'on est à moins 7%. Donc c'est le nerf de la guerre. Et c'est la raison pour laquelle on se rapproche notamment des ASPTT pour ça. Sur les joueurs, et on en discute, hein, on discute beaucoup des problématiques de double licence, double licence 15-13, etc. etc. Donc c'est l'enjeu, je ne dis pas qu'on va y arriver, hein. On s'est donné un objectif un objectif ambitieux, bah, et on va travailler pour essayer de l'atteindre. Mais vous voyez, par exemple, le fait de se rapprocher des ASPTT, c'est plutôt innovant, c'est plutôt nouveau. Mmh. Il y en a 240 à travers la France, hein. 240 associations, clubs omnisports. Et il n'y a pas que les ASPTT. Donc, vous voyez par exemple ce qu'on a fait au BEC à Bordeaux. Alors, au BEC à Bordeaux, qui est historiquement un club de 15, bah, actuellement, on a créé une section en 13, et donc il y a du rugby à 13 au sein du club du BEC, il y a du rugby à 15 et il y a du rugby à 13. Voilà. Et ben, ça fonctionne plutôt pas mal, voire même très bien. Et donc, c'est en ayant, encore une fois, une vraie ambition, et une grande ambition, qu'on peut aller chercher des résultats, ou viser le Mars pour aller sur la Lune. Et si je vise que la Lune, ben, écoutez, je m'arrêterai au milieu du chemin.
Donc, alors, je suis président, moi, j'ai une question qui ne vient pas de moi, mais qui vient de personnes que j'entends par là, quand je vais sur le terrain ou à côté des terrains, là. Ils me disent, est-ce que les 15 vont nous laisser faire? Voilà la question qu'ils me posent, ils sont inquiets les gens. Est-ce que les 15, qui ont fait souvent pression, est-ce que les 15 ne vont pas nous mettre les bâtons dans la roue, notamment même après la Coupe du Monde?
C'est infernal de voir à quel point.
Je le comprends, mais
je le dis pour vous provoquer. Vous savez, lorsque j'ai déposé la candidature de la Coupe du Monde, pour recevoir la Coupe du Monde en 2025, j'ai pris ma petite voiture et je suis allé voir Bernard Laporte à Marcoussis. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il va voir Bernard Laporte à Marcoussis? Mais justement, c'était pour m'enquérir du fait que, compte tenu de ce que j'entendais dans le monde du 13, ouais les 15-6, ils vont nous tuer, ouais les 15-6, c'était là, là, tu dis, bon Luc, avant de te prendre une baffe, essaye d'aller vérifier que n'y a pas d'animosité ou pas de volonté. Vous savez, moi je suis neuf hein, dans le monde du 13, donc ce sont des sujets qui me dépassent un peu, mais j'écoute. Et j'écoute les 13. Et donc je suis allé voir Bernard Laporte à Marcoussis. On a passé un peu plus de 2h30. Alors certes, je parle beaucoup, mais lui aussi. Hein, dans son bureau, un très beau bureau d'ailleurs. Et à la fin de notre rendez-vous, il m'a dit, écoute Luc, c'est juste merveilleux ce que tu es en train de faire. Et tu as tout le soutien de la Fédération Française de Rugby à 15. Et il m'a fait un superbe courrier de soutien qui a été important pour l'État français, de voir qu'effectivement, le rugby à 15, qui est en train de mener une très belle réussite, tant avec son équipe de France qu'avec la Coupe du Monde 2023, nous soutenait. Et c'est un très beau courrier que m'a fait Bernard Laporte. Et derrière, vous savez que je connais un peu de monde à 15 quand même, hein, puisque je viens aussi un peu de ce monde-là, et je suis étonnamment surpris de voir à quel point les gens m'encouragent. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux que j'étais intervenu lors d'une conférence au Bristol à Paris il y a quelques mois, quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, j'en fais tellement, il y a quelques mois auprès de Sport and Business Club, qui est un endroit généralement dans un grand hôtel parisien qui reçoit généralement essentiellement des quinzistes. Et je trouve qu'il m'avait fait l'honneur de m'inviter en qualité d'invité d'honneur. Je devais être le seul treiziste au milieu de la salle, c'est un peu fou, il y en avait deux autres, au milieu de la salle, il y avait, oui, il devait y avoir 400 ou 500 personnes. Des entreprises, des mondes économiques, un peu de politique, et beaucoup de sportifs et beaucoup de quinzistes. Ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein. Et j'ai présenté ce qu'on était, sans en faire plus que ça. J'ai présenté, écoutez, à la fin de la truc, à la fin de l'interview et du moment passé, beaucoup de quinzistes sont venus me voir et m'ont dit, écoute Luc, c'est vraiment super ce que tu fais. Et je vais même vous raconter une histoire. J'ai le président, à côté de qui j'étais à table, le président du Havre, rugby à 15, qui joue en fédéral 1, qui m'invite et nous invite très vite à venir pour les 150 ans du club essayer de faire un match, alors on va voir si on peut le faire, au Havre, et qui m'a plutôt dit que lui voudrait effectivement également au sein de son club créer un club de 13. Non, je ne crois pas, alors je suis peut-être candide, je suis peut-être naïf, mais qu'est-ce que vous voulez, si on ne fait pas, on ne fera jamais rien. Hein. Donc moi je ne crois pas, et puis vous savez, l'histoire est passée par là, et globalement, le rugby à 15 est entre 10 et 12 fois supérieur à nous en fonction des critères que l'on prend. La guerre du passé, si vous voulez, ils l'ont gagnée. Donc il ne faut plus mener, il ne faut pas mener cette guerre-là. Il faut au contraire trouver notre place, trouver l'espace que nous pouvons avoir. Nous avons deux sports très proches, mais aussi très éloignés. Je pense qu'on a des atouts et des chemins sur lesquels ils ne peuvent pas aller, sur lesquels nous pouvons aller. Et je crois que tout le monde l'a parfaitement compris. Donc je pense au contraire que, vous savez, nos stades, hein, pour 2025, ils seront remplis de gens qui seront pas que des trésistes. Hein, d'abord parce que sinon les stades seront pas loin d'être remplis. Donc il y aura beaucoup de quinzistes, il y aura beaucoup de familles, de festifs et autres. Donc, c'est le rugby qui est mis à l'honneur. C'est l'Ovalie qui est mis à l'honneur. Et nos amis du 15 l'ont parfaitement compris.
Alors, Président, maintenant, je vais laisser la parole à Denis. Et pour passer au championnat français, quand même, qui connaît quelques problèmes. Denis, à toi la parole.
Oui, Président, mais... c'est vrai que vous avez raison de dire que globalement, ils ont gagné. Mais encore... Il nous mène par-ci par-là des petites guerres, je peux vous l'assurer. Mais après, bon, on va revenir à l'essentiel, c'est quand même la situation du rugby à 13 actuel, puisqu'il y a quand même un grand projet, cet énorme projet, et dont tout le monde souhaite la plus belle réussite. Mais en attendant, bon, c'est la réalité de tous les jours. Alors, je m'autoflagelle encore, Président.
Non, mais vous avez raison, Denis, vous avez raison.
Voilà, je pense, ça fait 18 mois que vous êtes à la... Alors, je ne veux pas vous faire un procès de dire, bon, c'est votre faute, etc., puisque c'est une situation qui ne cesse d'évoluer, malheureusement, d'évoluer négativement depuis une trentaine d'années. Vous êtes aux affaires depuis 18 mois, il y a eu le Covid, mais vous avez été élu aussi, bon, je peux le témoigner, puisque j'avais... vous avez eu un élan derrière vous, au moment de... En se disant, voilà, une équipe qui va, entre guillemets, sauver le rugby à 13 français. Alors, cette Coupe du Monde peut y contribuer grandement. Mais aujourd'hui, la situation, des clubs fédérales jusqu'au club d'élite, alors on va laisser de côté les deux clubs professionnels, mais vraiment, la situation devient de plus en plus difficile. Quand on voit le championnat élite qu'on a vécu cette année, alors pas sur le terrain, hein, sur le terrain, on voit les spectacles, etc. Mais malheureusement, bon, il y avait 9 équipes, dont 2 réserves de clubs professionnels. Là, on voit que le club Villeneuve sur l'autre, en grande difficulté pour la saison prochaine. Alors, on entend dire qu'il y aurait des éventuellement. Mais moi je ne sais pas. J'aimerais que. Est-ce que vous avez. 18 mois après votre arrivée, un projet pour rénover, pour commencer à rénover. Je sais que vous n'allez pas rénover en claquement de dents, pardon de doigts, mais commencer à rénover ce rugby à 13, ces compétitions trésistes, pour les rendre plus attractives et pour essayer de sauver les clubs qui doivent être sauvés pour qu'on puisse arriver en 2021. Parce que aujourd'hui, je m'excuse, je pose la question, est-ce que. Dans quel état va-t-on arriver en 2025? Parce que vous avez dit vous-même tout à l'heure, il y a la pré-Coupe du Monde, mais il y a l'avant Coupe du Monde.
Alors, Denis, il faut que vous restiez calme et que vous buviez frais, hein, Denis. Restez calme et buvez frais.
Pour le moment, il ne fait pas assez chaud. Il ne fait pas assez chaud pour le moment.
On ne va pas se le cacher. Effectivement, la situation est compliquée. Mais vous savez, la situation est compliquée dans tout le monde du sport. Le Covid a réduit le nombre de licenciés de clubs dans les sports français de plus de 3 millions de personnes. 3 millions de personnes ont arrêté le sport en club. Et vous voyez, nos amis encore du 15, ils souffrent énormément en ce moment. Ils m'en parlaient l'autre jour, ils font des ententes à 6 clubs pour pouvoir constituer une équipe de cadets. 6 clubs pour faire une équipe de cadets, ils n'ont jamais que 2 joueurs de plus que nous. Donc la situation est compliquée pour tout le monde. Bon, donc déjà avant de dire nous sommes plus malheureux que les autres, non, tout le monde souffre. Et vous savez ce qu'on dit, hein, les maigres maigrissent moins vite que les gros. Hein. Ils sont beaucoup plus gros que nous, et nous, il ne faut pas qu'on meure. Bon. Ce qu'il y a de certain, c'est que, et je le développerai au congrès le samedi 21, les conséquences de la pandémie sont fortes. Mais depuis que nous avons mis notre plan de relance en place l'année dernière, et qui donc a été établi à partir de la rentrée dernière, c'est-à-dire de septembre dernier, hein, quasiment, dans les prises de licence, nous nous rendons compte que nous sommes en train de rattraper le nombre de licenciés que nous avions avant Covid. Globalement, sur les tout jeunes, les écoles de rugby, nous sommes, par rapport à avant Covid, nous sommes à moins 2,5%. Donc, on a les écoles de rugby qui reviennent à l'assaut. Premièrement, là où nous avons une vraie difficulté, et nous sommes en train, avec le comité directeur, d'y réfléchir, et la commission des jeunes et autres, nous avons une vraie difficulté sur les U13, U15. Là, on a un trou dans la pyramide des âges qui est assez problématique, parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir un problème de relève. Bon, et donc là, cette année, nous allons devoir lancer un plan de reconquête de cette tranche d'âge-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, post-Covid, c'est chaud, hein, mais le nombre de licenciés est en train de repartir à la hausse. Je vous dis, on a deux problèmes, c'est les dirigeants, et deuxième problème, cette tranche d'âge-là, U13, alors, selon les régions, ça commence sur les U9, mais sinon, c'est U13, U15, c'est ma grande inquiétude, celle-là. Il va falloir se battre, il va falloir trouver des solutions, notamment par le prix, hein, mais pas que. Par exemple, dans le retour dans les écoles, on est en train de signer une nouvelle convention avec l'UNSS, on a créé un poste de cadre technique pour développer toute la partie scolaire et universitaire, et toute la partie scolaire, les collèges et autres, comme on l'avait dit à l'époque, hein, bon, ça prend un peu de temps, mais on a mis en place tout un plan qui sera déployé et développé lors du prochain congrès, pour l'expliquer à nos congressistes. Donc ça, sur le côté des licenciés, oui, tout le monde a souffert, nous, on a essayé de réagir le plus vite possible en faisant notre plan de relance, vous savez, de l'année dernière, et qui porte plutôt ses fruits. Tout n'est pas parfait, parce que cette tranche d'âge-là, que je vous ai dit, m'inquiète un peu. Bon, on va travailler dessus, on en a parlé beaucoup avec Xavier Vasson, on en a parlé avec les présidents de ligue et autres. Donc on travaille à ça. Bon. Sur le volet sportif, comme vous l'avez dit, je crois que sur le terrain du sport, pour le dire comme tel, nos clubs d'élite fournissent une qualité sportive indéniable. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas avoir honte de dire que notre championnat... Quand on voit nos finalistes et la qualité du jeu qu'ils procurent, on a un championnat qui a de la gueule, hein, d'un point de vue purement sportif. Le vrai sujet, c'est effectivement comment on fait pour faire revenir les gens dans les stades. Bon. Moi, je crois, et je plaide beaucoup là-dessus auprès des clubs, notamment d'élite 1 et des présidents d'élite 1, qu'on est des amoureux de notre sport. On adore le rugby à 13. Super. Mais le spectacle, ça n'est pas que le moment du coup d'envoi, la mi-temps, on reprend après la mi-temps, et on termine le match, on siffle à la fin de la partie, tout le monde s'en va. Pour attirer du monde dans les stades, il faut créer de l'ambiance, il faut créer de l'événement, il faut créer... Pourquoi croyez-vous que j'ai décidé l'année dernière de faire la finale à Ernest Vallon dans un grand stade? Pourquoi? C'était pour redonner de la fierté à ce que nous sommes. On a le droit aussi d'aller dans un des plus beaux stades de rugby, qui est le stade Ernest Vallon. Cette année, nous avons décidé de faire une grande fête, le printemps du 13. Une grande fête sur les 21 et 22 mai, donc à Narbonne, où nous aurons toutes les finales, hommes, femmes, fauteuil à l'aréna de Narbonne, pas le petit truc à 200 places, hein, à l'aréna de Narbonne. Hommes, femmes, fauteuil, junior. Alors vous y verrez vraisemblablement une coquinerie de ma part vis-à-vis de la Coupe du Monde 2025, mais en fait, le printemps du 13, on le veut festif, on veut organiser quelque chose. Honnêtement, nous, fédération, on fait le job. J'espère que les trésistes sauront nous montrer qu'ils sauront venir à ce week-end du 21-22 et qu'on peut avoir un peu d'envie. Parce que vous savez, ça ne dépend pas que des autres. Moi, je ne suis pas le bon Dieu, hein. Ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend surtout des gens du terrain. Et ces gens du terrain, ils doivent montrer que quand on fait un événement, alors on attire du monde. Moi, c'est ce que je veux essayer de leur dire. Créons de l'environnement. Et alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est financièrement parlant. Ah, les clubs souffrent parfois un peu. Mais vous savez, je ne les nommerai pas, mais parfois je vois des clubs qui font tout gratuit. Je suis contre le gratuit. Parce que c'est galvaudé. Quand on donne quelque chose, on dévalorise la chose, sauf quand c'est un don. Mais vous m'avez compris. Moi, je pense qu'il faut créer de l'événement. Il y a un prix en face. Il faut créer l'événement, faire de l'événement, et alors à ce moment-là, on re-remplira nos stades. Sans ça, et pour ça, il faut que nos clubs, nos licenciés, vous savez, après, on est parfois un peu indécrottables. Ben, il va falloir qu'on se décrotte un peu, hein, pour faire en sorte qu'on revienne dans les stades. Et je crois qu'il faut créer de l'événement. Je crois qu'il faut créer de l'événement. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et l'année prochaine, sur le championnat d'élite 1, mais qui ne fait pas tout, hein, le championnat d'élite 1, on en parle avec les dirigeants, que ce soit pour la télé, que ce soit pour le... Il y a quand même des clubs qui font des choses. Hein. Donc je crois que tout ça est en train d'être plutôt tiré par le haut. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps.
Oui, mais je reste content. Oui, allez-y. J'allais vous dire, j'ai pas eu le temps de prendre des glaçons, donc j'ai pas eu le temps de me refroidir. Mais est-ce que vous ne pensez pas, président, que bon, c'est vrai qu'il faut, moi je suis d'accord avec vous, je partage votre analyse de l'événementiel, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi amener, si on veut amener du public dans les stades, il ne faut pas amener de la diversité. Vous-même, vous l'aviez dit durant votre campagne, avoir. Parce qu'aujourd'hui, on tourne en rond avec trois clubs audois, un club catalan, bon, Albi un peu qui s'est bien remonté cette saison, mais on est vraiment aujourd'hui, on est très rabougri. Et est-ce que là vous avez des projets, vous avez quelque chose, est-ce que vous réfléchissez, vous travaillez à quelque chose, ou pour justement permettre que, avant 2025, on puisse. Ce rugby d'élite 1 et 2 puisse respirer.
Alors non, je vous rassure, Denis, je ne fais rien, je ne réfléchis jamais et je ne travaille absolument pas. Je ne fais rien. Mais, je ne fais rien. Mais non, voyons, Denis.
C'est vous qui devez prendre les glaçons de son président.
Mais non, mais comment pouvez-vous me poser cette question? Bien évidemment qu'on bosse d'arrache-pied là-dessus. En fait, qu'est-ce qui se passe? Déjà l'an dernier, vous savez, on avait eu la descente de Palot, qui n'était pas une bonne nouvelle. Et puis, on avait eu le risque de voir Saint-Gaudens aussi disparaître, hein, et descendre en élite 2. Et alors là, ça serait plus devenu le championnat de France, ça serait quasiment devenu le championnat de l'Aude. Et là, effectivement, ça n'aurait même si l'eau est parfaitement représentée, le sera encore dans ses demi-finales et vraisemblablement finales aussi, il est indispensable, effectivement, d'essayer de s'ouvrir. Alors déjà, vous savez, parfois, la fédération, on gère la misère. Hein. Donc déjà, on essaye de faire en sorte de ne pas perdre ce qu'on a. C'est déjà une chose. Je reste confiant, et je suis allé encore la semaine dernière avec ma voiture longuement à Villeneuve. Je suis plutôt rassuré quant à l'avenir en élite 1 de Villeneuve, même si tous ensemble, il faudra veiller à les aider comme on a été et essayer de veiller à ce que Saint-Gaudens, grâce à son président, M. Estrampes, puisse se maintenir. Ça, c'est pour gérer, entre guillemets, la misère et essayer de faire en sorte que les clubs se maintiennent. Je pense que cette année, nous passerons à 10, avec vraisemblablement pas de descente et une montée, en l'occurrence, de Pia. Si Pia termine champion d'élite 1, d'élite 2. Nous travaillons actuellement sur trois grandes villes pour, à relativement brève échéance, alors laquelle, je ne peux pas vous la dire comme ça, retrouver un club d'élite sur la ville de Lyon, où nous sommes actuellement en train de travailler avec différents investisseurs potentiels sur Lyon, pour pouvoir jouer assez vite en élite 1. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher des budgets qui vont se situer entre 500 et 600 000 euros minimum. Mais nous, on aide, et moi je suis là pour mettre en avant et pour aider les gens qui se sont mis autour de la table. Deuxièmement, nous parlons également de cela à Bordeaux, avec une équipe qui se constitue pour essayer de créer un club d'élite à Bordeaux. Paris est un peu plus compliqué, mais nous sommes également en contact avec un grand club parisien que je ne vais pas citer, pour effectivement pouvoir trouver la capacité à faire un rapprochement avec le 13. Voilà trois villes sur lesquelles on avance. Je crois beaucoup, en fait, et vous l'avez compris, je crois beaucoup à l'aspiration France 2025. Et l'aspiration France 2025 ne sera pas que l'événement, le moment de l'événement. L'aspiration de France 2025, elle a démarré le 11 janvier. Et depuis le 11 janvier et l'annonce avec le Premier ministre, on nous regarde différemment. On regarde le rugby à 7 différemment. Et donc, des villes, des gens, des industriels, des mondes économiques commencent à se poser des questions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel nous travaillons actuellement, c'est la constitution d'une ligue professionnelle. C'est très compliqué, hein, une ligue professionnelle. D'abord parce que juridiquement, c'est complexe. Il faut créer une ligue. Un investisseur ne peut pas détenir plus de 20% du capital de la ligue. Bref, nous travaillons avec actuellement un cabinet d'avocats parisien qui structure la ligue professionnelle de football, qui va faire une énorme augmentation de capital dans les mois qui viennent. C'est également notre conseil, je connais bien le patron, mais c'est notre conseil. Bon. Et on travaille à la structuration de ce que pourrait devenir un championnat professionnel. Alors ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences, parce qu'un rugby professionnel, ça nécessite des moyens, ça nécessite des stades de qualité, ça nécessite ce que l'on appelle une zone de chalandise, c'est-à-dire un environnement économique permettant d'avoir des sponsors. Et en parallèle de cet aspect de structuration, comme on dit, de structuring d'un championnat professionnel, ça ne s'écrit pas comme ça, hein, les règles juridiques sont très complexes, hein, de création, enfin complexes, connues, mais il faut réussir. Je suis déjà en contact avec plusieurs fonds d'investissement dans le sport qui pourraient accompagner la création d'une Super Ligue à la française, on va dire, même si j'aime pas ce terme, mais la création, comme ça s'était fait dans les années précédentes, il y a quelques années en Angleterre, à un rythme plus raisonnable. Mais le but du jeu est d'essayer de créer un championnat professionnel avec des clubs qui se situeraient avec des budgets de l'ordre de alentours de 2 millions d'euros. Et là, on commence à faire des jolies choses. Le but du jeu étant de faire en sorte que ce championnat soit un championnat attractif, donc un championnat qui crée du spectacle. Et s'il crée du spectacle à terme, 5 ans, 6 ans, c'est un championnat qui pourra vendre des droits. Vendre des droits, c'est vendre des droits de télé. Parce que le sport professionnel vit de droits télé et de sponsors. Et généralement, quand vous avez un de droits télé, vous arrivez à avoir deux sponsors et collectivités locales qui vous suivent. Donc voilà. Voilà, on y travaille, mais ça sera, cette partie-là sera un peu longue. Hein. Ça ne va pas se faire. Moi, je me suis donné comme objectif d'essayer d'avoir ce sport professionnel, cette compétition professionnelle qui pourrait d'ailleurs se dérouler à d'autres périodes. J'aurais voulu le lancer juste avant 2025. Je ne suis pas sûr que nous réussirons à le lancer dès la fin 2024, entre guillemets, parce qu'il y a un énorme travail à faire de constitution, de fédération des clubs. Attention, hein, tout le monde pourrait ne pas être d'accord avec ça. Donc il va falloir énormément fédérer. Il va falloir conclure des accords financiers et bien évidemment préparer le terrain des médias. Donc il y a un énorme travail, mais vous savez, le premier gros travail a été de maintenir et de restructurer la fédération et d'essayer de faire en sorte de contrebalancer le coût du Covid. Je crois qu'on est en train de faire le pas. Deuxièmement, de trouver un grand événement qui va être ce point de passage et cet accélérateur de notre transformation, c'est la Coupe du Monde, et ça on l'a. Et avec cette Coupe du Monde, avant, je pense qu'on peut et qu'on doit se donner comme objectif d'essayer de passer au professionnalisme. Si on ne passe pas au professionnalisme, de toute façon, tôt ou tard, on restera un tout petit sport. Donc il faut passer au professionnalisme. On n'a pas le choix. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de... Enfin, on est en train d'y travailler. Il va falloir un petit peu de temps. Il va falloir être patient. Donc en attendant, il faut que les clubs tiennent bon. Il faut que la fédération continue à les aider le mieux possible. Je ne dis pas qu'on fait tout bien, loin de là. On ne fait pas tout bien. On a, nous aussi, à la fédération, à faire encore beaucoup de changements. Je vais vite. Je vais parfois peut-être un peu trop vite. Mais je ne changerai pas de rythme parce que notre sport a besoin qu'on se bouge. Donc on va continuer à aller vite. Et souvent je leur dis, vous croyez qu'on était à fond, eh ben on va accélérer. Voilà. Donc je reste confiant.
Voilà. Allez-y, on a terminé.
Je vous en prie, je vous laisse faire.
Oui, non, j'allais dire, on savait que vous travailliez, président, mais je pense qu'il est bon que tous les trésistes l'entendent.
Mais Denis, il travaille dans une petite voiture, je ne le crois pas, mais bon.
je suis quand même beaucoup, je suis beaucoup sur le terrain, vous savez, je rencontre beaucoup de monde. J'ai plutôt le sentiment, c'est pas de tout le monde, sûrement, mais j'ai plutôt le sentiment que les gens se rendent compte que la fédération travaille. Alors, parfois, et je le dis bien volontiers parce que ça ne serait pas bien de ne pas le reconnaître, parfois un peu dans le désordre, ou du moins j'imprime un rythme qui est tellement élevé qu'il faut que les équipes arrivent à suivre et que, vous savez, on n'est pas nombreux hein, à la fédération. Donc parfois ça va un peu trop vite, mais c'est important de bouger, c'est important d'avancer, voilà, on va essayer de s'améliorer sur ce terrain-là. On a deux points sur lesquels il faut qu'on s'améliore. C'est l'organisation. D'ailleurs, pour ça qu'on va changer la manière de faire les calendriers. Et deuxièmement, une partie de communication en interne qui est loin d'être optimisée, pour pas dire défaillante.
Oui, vous avez raison.
Voilà, ce sont les deux axes, deux gros axes qu'on va travailler. Parce que c'est les points qui nous ont été les plus en souffrance cette année. Les calendriers. Alors il y a eu une partie du Covid, hein, Mais les calendriers, là où ça a été très compliqué, c'est en début d'année. Parce que la méthode de la concertation, et j'ai demandé à mes équipes de continuer à faire de la concertation, les calendriers qui tombent comme ça. Là. Mais par contre, on veut les arrêter au plus tard, mi-juillet. Hein. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on va demander au club de s'engager avant fin juin. Fin juin, mi-juillet, quoi. On voudrait avoir vraiment fini le calendrier à fin juillet.
D'accord. Bien, bon, président, bien. Merci. Denis, tu as votre question, Denis?
Non, ça va. Je vais me mettre au frais.
Je vais me mettre au frais. Je vais mettre un congélateur à notre ami
merci,
Denis.
Merci, président.
Eh mais on a déjà passé une heure
et oui,
ensemble.
Et oui, avez-vous le temps passe vite.
Trop vite. Mais quel bonheur d'être avec vous. C'est parce que c'est le bonheur d'être avec vous.
D'accord. Et je vous vois, président, dans votre petite voiture. Là. Bon, vous y rentrez quand même, la petite voiture.
À peine. J'ai repris du poids, à peine.
D'accord. Bon, allez, on vous remercie grandement. On aura l'occasion de vous retrouver, parce que c'est vrai que c'est passionnant, l'histoire de Rugby à 13, elle est passionnante. Président, on vous remercie. Nous, on va continuer.
Merci beaucoup. Peut-être que j'aurai la chance de vous voir ce week-end aux demi-finales, puisque je descends à Carcassonne et Limoux, pour ma part.
Mais moi, je n'y serai pas, parce que je gère depuis la maison sur les écrans pour voir ce qui se passe et donner un coup de main à Denis, qui est Denis, c'est mes yeux. Voilà, Denis,
il remplace. J'y serai, président, j'y serai.
Et donc, voilà. j'invite vraiment tous vos auditeurs à venir à ces demi-finales. Et j'invite bien évidemment tous vos auditeurs à venir à cette merveilleuse fête. S'ils aiment le 13, ils doivent venir le 21 et le 22 mai à Narbonne, au Parc des Sports et de l'Amitié. Ça sera une très belle fête le 21 et le 22 avec toutes nos finales qui vont avoir lieu sur un même week-end, en un même lieu, en une même ville. Et je crois que si on aime le 13, on ne peut pas être absent de ce moment qui est le printemps du 13. Si le printemps du 13 ne devait pas recevoir beaucoup de spectateurs, alors je pense que les 13istes devront considérer qu'ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Donc venez nombreux, et j'invite vraiment tout le monde à venir au printemps du 13 à Narbonne. Ça fera une très belle fête.
Très bien. Merci, président.
On y sera.
À bientôt.
Merci, revoir, à bientôt et au revoir et à bientôt à vos auditeurs. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Allez Denis, bon, on va essayer de faire un peu vite, si on peut dire.
Le même vous est présenté par
Comptoir des vins et terroirs. Dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olives, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays cathare, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Restaurant La Barbacane, depuis ses roseries jusqu'aux vitraux, dans un cadre de charme et d'élégance, le chef de cuisine Jérôme Rion met l'accent sur une cuisine de tradition renouvelée avec raffinement et subtilité, offrant un panorama enchanteur sur les jardins de l'hôtel et les remparts de la cité. Venez déguster un dîner romantique aux chandelles ou en famille, accompagné d'interprétations musicales au piano.
Assurance Philippe Ten et Jérôme Dupin, agent général Alliance pour une solution simple et idéale à tous vos besoins. Auto, habitation, santé, financier, assurance Alliance, cabinet Ten et Dupin, 295 chemin de Mâquins, ZI La Bourriette à Carcassonne, près de Décathlon.
Allez, on retrouve Denis pour parler de ces demi-finales championnats de France de rugby à 13, dès demain, Denis, un match au sommet, Carcassonne-Lézignan, et là, là, ça va être du bonheur. On ne va pas faire pour le strip. Moi, je dis souvent, vivement que ce soit un club d'or qui gagne, on ne se trompera pas. Mais alors, ça s'annonce un match explosif, extraordinaire demain, Denis.
Ah ben oui, je voilà, Roger, tu as déjà énoncé tous les grands principes. Un grand derby, bon, les deux, une grande demi-finale avec au bout de 80 minutes, eh bien, une participation à la finale. Lézignan qui défend son titre, Lézignan le tenant du titre. Carcassonne qui est en course pour sa troisième finale en trois saisons consécutives, puisqu'entre-temps il y en a eu une qui a été interrompue par le Covid. Donc voilà, c'est deux clubs qui se connaissent parfaitement. Donc, Lézignan qui en début de saison était largement favori. D'ailleurs, ils avaient fait un début de saison fracassant, puis ils ont perdu un certain nombre de joueurs, Belmaz, Inou, moi, et un certain nombre de recrues. Il y a eu le problème Malonnet, ils ont eu un passage à vide, et là, en récupérant Malonnet, on a vu que la semaine dernière, eh bien, ils récupéraient leur patron, leur leader, et on a vu devant cette équipe d'Avignon, en barrage, où ils se sont largement imposés. Bon, là, c'est un autre match différent qui attend ces Lézignanais, se déplacent à Carcassonne, et Carcassonne qui va être aussi avec, qui va pouvoir posséder la totalité de ses arguments, sauf les blessés comme les Lézignan, qui a des absents aussi, qui a des blessés de longue date, pour de longues périodes, Carcassonne également, mais Carcassonne en dehors de Kélimi, de Soum, de valeur sûre, qui ne seront pas là, mais qui sont blessés, et du jeune Rodriguez, eh bien, pourra compter sur la totalité de son effectif, y compris avec le retour de Mika Simon. Donc voilà, ça va être, comme tu l'as dit, Roger, on attend un très, 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 très gros match à 15h30 demain au Stade Albert Domecq. Vous pourrez le suivre également en direct sur Radio Marseillette. Et je pense qu'on va se régaler. Ça va être, il va y avoir tous les ingrédients. Enfin, en tous les cas, on a tous les joueurs, il n'y a que de la qualité. Et on a aujourd'hui, on va avoir deux grandes demi-finales, hein, puisqu'on parlera de l'autre juste après. Demain soir, on saura qui de Carcassonne ou de Lézignan se retrouvera en Narbonne au printemps du 13, le 20 pour le dimanche, je crois que c'est 22 mai, qu'aura lieu cette finale. Donc les deux équipes ont des arguments un peu différents, mais on sait que ça va être un grand match, ça va être, on l'espère tous, un grand rugby pratiqué par deux équipes qui vont s'appuyer peut-être chacun en fonction. On étudie beaucoup la vidéo, donc chacun va étudier les forces et les faiblesses des autres, et donc ça peut se jouer à des détails de la discipline. On le sait, on le répète, Roger, chaque fois qu'on commente des matchs ensemble, discipline, conservation du ballon, voilà. Donc ce sont des choses qui sont très importantes. On ne fera pas de pronostic. Alors, en ouverture, on aura la demi-finale des U19, des juniors, qui opposera Toulouse, qui a terminé second, qui jouera contre les U19 de Lézignan, qui ont créé la surprise, puisqu'ils sont sortis sixième, les jeunes Lézignanais, et la semaine dernière, eh bien, ils ont battu les troisièmes à Limoux, au Stade de l'Aiguille, ils se sont imposés, ils ont battu Limoux à Limoux, et donc Lézignan, tout le pays lézignanais sera là dès 13h30 ou 13h, je ne sais pas, 13h30, je crois, pour cette demi-finale junior face à une grosse équipe de Toulouse. Voilà, donc, en ouverture de notre grande demi-finale.
Oui,
et puis dimanche, Roger.
Un bel après-midi à Domecq, là, s'il y a un match où il faut aller, c'est bien celui-là. Hein. Et puis le lendemain, dimanche, là aussi, rebelote, là aussi, il faut y aller. Le 13 Limousin contre le Saint-Estève 13 Catalan. Et là, bon, pronostic difficile aussi, parce que je pense que les Catalans, la Super League ne joue pas. Tu me vois venir, Denis.
Eh oui, bien sûr.
La Super League ne joue pas. Je suis persuadé qu'ils vont faire descendre des cadors dans cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan. Tu crois, on connaît mon opinion là-dessus. Mais bon, il faut le jouer. Ça va être difficile. Même pour moi, Limoux doit partir favori. Mais ça ne sera pas dans la carte. Hein.
Et non, c'est toujours l'incertitude. Tu as raison, Roger. cette équipe de Saint-Estève catalane, qui même, alors ils étaient, l'équipe des Dragons était remontée en stage de récupération à Font-Romeu cette semaine, mais je pense que oui, il y aura la semaine dernière. Ils sont passés très très à Albi de la défaite, de l'élimination, cette équipe catalane. Et Roger, tu as vu le match. Je l'ai revu en différé dans la semaine, en replay. Bon, c'est vrai que cette équipe d'Albi donne le match, mais quand même, parce que...
C'est le bouffe, le match, c'est le bouffe.
Ah, mais oui, ils ont bouffé la feuille de match. Et bon, mais ça se joue pendant les prolongations, et voilà, un ballon perdu, et voilà, et c'est...
Ah, mais là, les prolongations, c'est qui tout double, hein, la mort subite, là, c'est qui tout double, là.
Oui, mais prise de risque inutile au niveau des Albigeois, pendant ces prolongations, d'attaquer sur leurs 40 mètres, bon, au lieu d'assurer, d'essayer de progresser, de venir occuper le camp catalan pour tenter le drop, peut-être, j'en sais rien. C'est une prise de risque, oui, ballon perdu, et c'est le compte.
Ça, Denis, moi, je le reproche à Albi, comme à d'autres clubs. Hein. Quand on domine, même quand on a 12 points de manque d'avance, comme il avait, quand ils étaient à l'approche des poteaux, il fallait passer un drop, tenter un drop. Et ça, on ne sait pas le faire dans les équipes françaises. Malheureusement, il n'y a pas qu'Albi, hein. Un point, 25, c'était fini, c'était qualifié. Ils n'ont pas voulu le faire. Ça, c'est un manque de lucidité qui a eu un deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'on peut leur reprocher. Mais après, bon, c'est vrai qu'ils ont pris ce risque totalement inutile qui les a fait perdre.
Voilà, et puis donc, là, c'est un autre match. Ça permet aux Catalans d'être en demi-finale face à Limoux, à l'aiguille. Limoux qui a fini premier de cette phase qualificative, le 13 de Limouxin, qui produit du beau rugby, qui est compté dans toutes ses lignes, qui a une défense énorme. Hein. On a vu que le 13 de Limouxin, jusqu'à présent, tous les matchs que j'ai vus, que ce soit dans les derbies contre les Ignans, contre Carcassonne, y compris contre les Catalans, où ils avaient affronté une équipe catalane, je me rappelle, lors de leur déplacement à Saint-Estève, où il y avait 11, pas moins de 11 joueurs sous contrat avec les Dragons catalans. Eh bien, ils avaient perdu de quelques points, ils avaient aussi commis peut-être quelques fautes, mais qu'une défense, ils avaient vraiment été, bon, je pense, héroïques, vaillants. Et voilà, Limoux a tous les arguments pour aller en finale, pour battre cette équipe catalane. Alors après, on verra qui sera là demain, dimanche, pardon, du côté catalan. Bon, ça, c'est l'incertitude, on va dire, de cette composition d'équipe. Mais je pense que Limoux a les arguments pour battre, y compris une équipe où il y aurait beaucoup de renforts venant de joueurs sous contrat chez les Dragons catalans. Donc, match.
Ouais, grand match. Une finale, Denis, une finale Lézignan, Limoux ou Carcassonne-Limoux, ça aurait dans la gueule quand même, un Arbonne.
Ah ben oui, bien sûr. On en rêve tous, mais les Catalans sont là pour, au milieu des trois clubs vaudois, pour faire chuter, pour se mêler à cette finale. Bon, ben, voilà, vous pourrez suivre ce match aussi en direct sur Radio Marseillaise, hein, puisque vous manquerez rien les deux rencontres. Alors ce sera à 16h au stade de l'Aiguille à Limoux, et en ouverture, il y aura la deuxième demi-finale junior des U19 qui opposera Saint-Estève catalan, leader invaincu, la grosse cylindrée, le grand favori pour le titre junior, qui sera opposé aux juniors d'Albi, les juniors d'Albi qui sont venus battre la semaine dernière les juniors de Carcassonne à Carcassonne, au stade Gilbert Benos, créant une assez grosse désillusion pour les jeunes jaunes et noirs. Mais donc voilà, c'est les Albigeois se sont qualifiés et ils seront de la partie dimanche à l'aiguille face quand même à une armada catalane en junior. On ne voit pas comment les Albigeois pourraient battre cette équipe catalane qui est invaincue au championnat dans le championnat
junior. Tu sais, Denis, un match n'est jamais joué à l'avance.
Oui, et c'est vrai qu'ils partiront par favoris. Peut-être que ce sera peut-être un avantage, finalement, pour le Limoxin, peut-être. On verra, on verra.
Non, moi je parle des Albigeois.
Des Albigeois, pardon, je suis trompé. Je vous Albigeois, pardon.
Mais pour le Limoxin. Hein.
Il y a une belle équipe, quand même, à Albi, Junior aussi, Denis. Bon, hein.
Oui, oui, bien sûr, mais bon, les Catalans, c'est quand même vraiment de la grosse cinéma. Voilà, un bon week-end.
On verra.
Deux matchs sur Radio Marseillette. Demain, 15h30, nous serons avec Jean-Claude Bousquet et Roger qui nous fera part de ses analyses à la mi-temps et en fin de rencontre. Et puis dimanche, à partir de 16h, nous serons avec Roger, tous les deux, pour faire vivre l'autre demi-finale et Limoux catalan. Donc voilà, un beau week-end.
Et puis Denis, moi j'ai quelques petites informations. N'oublions pas que Villers-Aragon 2 ira jouer au stade Henri IV contre Cheval Blanc. un rassemblement. pour le challenge national. Et puis bon, le 14, demain aussi, si je ne me trompe pas, Villerien, il y a un grand loto de grillade, donc à la salle polyvalente de Villerien, il faut y aller. Et puis le 14, la semaine prochaine, il y a, on en parlera la semaine prochaine, le barrage entre Aragon contre l'Escure, ça promet là aussi, en tout cas, demain, entre la télévision et entre l'Escure terrain, vous avez de quoi vous régaler. Voilà, on a pris un peu de temps.
Je voulais juste dire 30 secondes, mais juste puisque tu as parlé de ce championnat d'élite 2, je voudrais simplement dire que dans la compétition était, et la phase de classement était terminée, que Pia a bien terminé invaincu, en battant Villegaillan Aragon d'un petit point, malheureusement.
Petit point, hein.
Et voilà, un petit point, ça oblige cette équipe du Val, comme tu as dit, à terminer troisième et à faire les barrages, et c'est Barreau qui passe devant, parce qu'ils ont eu dans la saison un point de bonus défensif, 4 points de bonus défensif, sur 5 défaites, alors que le Val avait 5 défaites, on n'a eu que 3 points de bonus défensif. Donc le Val va être obligé, non seulement, donc, on aura le barrage Villeray-Aragon-Lescure, tu l'as dit, puisque Lescure a terminé 6e, et puis nous aurons un autre barrage, sera I sur T contre Entraigue, le club provençal, et puis donc ça devrait nous donner, si tout est des demi-finales aussi, alors qui seront l'inverse des. Puisque là, on aura trois clubs catalans pour un club audois. On aura un derby Pia, certainement contre Ille, mais bon, s'il n'y a pas de surprise, un barrage. Et Bao, qui est contre Villegaillard-Aragon. Voilà, ben, peut-être je me mouille un peu. Et ça nous annonce aussi là des demi-finales explosives en Élite 2. Voilà, Roger, j'en ai terminé.
Voilà, eh bien, on va se quitter sur ces belles paroles. Rendez-vous donc, je vous le dis, demain après-midi et dimanche après-midi pour les demi-finales de championnat de France rugby à 13. On va se régaler. On remercie Nicole, on a débordé un petit peu, on s'en excuse. Merci à tous nos auditeurs trésistes, merci Denis, merci Nicole. Et moi je vous dis à demain, à partir de quelle heure Denis?
Bon, si à demain, 15h30.
15h30, et dimanche, 16h.
16h.
Très bien. Voilà, merci Nicole, au revoir à tous, à demain.
Bye ciao, ciao.
Bye bye.
Merci Nicole.